Frères et sœurs, tels nous pouvons nous nommer les uns les autres. En effet, Dieu nous accueille toutes et tous pour ce moment des cultes et fait de nous un seul peuple, un peuple de frères, un peuple de sœurs. Que nous soyons ici, dans cette salle de culte, ou éventuellement de l'autre côté à la garderie pour les plus jeunes d'entre nous, nous formons une même communauté tendue vers une même parole qui s'adresse à nous. Nous recevons de Dieu la grâce, nous recevons de Dieu la paix, nous recevons la grâce et la paix dans notre cœur, dans notre vie. Et voilà un motif pour nous lever et chanter à Dieu notre reconnaissance avec le premier répond indiqué dans le livret liturgique. Oui, Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance, reconnaissance d'être là aujourd'hui, d'avoir une famille spirituelle qui nous accueille, de pouvoir entourer Nicolas qui a demandé le baptême et qui agrandit l'espace de notre famille. C'est vers toi que nous voulons faire monter l'expression de notre reconnaissance, monter notre louange. Car c'est de toi que nous recevons jour après jour ces biens si précieux que sont la conscience de la justice, la conscience de ce qu'est véritablement l'amour, la conscience de ce qu'est véritablement la vie, le bonheur. Oui, c'est toi qui nous aides à prendre conscience la véritable valeur des choses qui font notre existence et c'est pourquoi nous nous tournons vers toi. C'est pourquoi nous nous recueillons face à toi. C'est pourquoi nous pouvons être déclarés âme devant toi. Et nous prolongeons notre prière par le chant du psaume 62. Dans l'harmonisation B, celle de Genève, nous chanterons les strophes 1 et 4. Dans le prolongement de ces derniers mots du psaume 62, entendons une expression de la volonté de Dieu telle qu'elle retentit dans l'Évangile. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, là où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez des trésors dans le ciel. Où ni les vers ni la rouille ne détruisent et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je pense qu'on n'a pas chanté la réponse sur la bonne mélodie. Je pense que cet esprit taquin qui consiste à tester le corps pastoral pour savoir s'il est réveillé en dépit des microbes qui se sont abattus sur lui cette semaine mérite une petite prière de repentance. En ce premier jour de la semaine, nous regardons vers toi, Dieu d'amour. Au milieu des difficultés, au milieu des problèmes, tu nous as donné le pain de chaque jour. Tu nous as réjouis par ta création. Tu nous as assurés de ta miséricorde par le Christ. Mais nous n'avons pas su te dire notre reconnaissance. Pardonne-nous. Tu nous as fait entendre des nouvelles de toute la terre. Tu as mis devant nos yeux la souffrance de nos frères et de nos sœurs, peut-être trop de souffrance pour ce que nous sommes capables d'accepter. Et du coup, nous lui sommes souvent restés insensibles. Pardonne-nous. Tu nous as accompagnés sur notre chemin quotidien, mais devant les soucis, nous avons été gagnés par la peur. Et devant la tâche que tu nous indiquais, ce que nous comprenions être notre véritable vocation, nous n'avons pas su t'obéir. Pardonne-nous. Accorde-nous, Père, des cœurs reconnaissants, attentifs et disponibles pour ton service. Amen. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu selon le prophète Ésaïe, quand les collines chancelleraient, sache que ma bonté pour toi ne faiblira point, et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée, car je t'aime d'un amour éternel, et je te garde ma miséricorde. Et voici comment Dieu a manifesté son amour, nous révèle l'Évangile. Il a envoyé son Fils unique dans le monde, afin que, par lui, nous ayons la vie véritable, la vie authentique, celle qui ne périt pas, celle qui n'est pas transitoire, celle qui peut être marquée du sceau de l'éternité. Alors, par ces paroles, frères et sœurs, Dieu nous met au cœur l'assurance de son pardon et nous donne de marcher ensemble vers son royaume. Levons-nous pour chanter notre reconnaissance. Prenons place. Nicolas, je vous invite à vous lever et à me rejoindre. Vous avez donc fait un peu de chemin pour arriver jusqu'à ce moment où il est question pour nous de redire ces paroles que Jésus a laissées à ses disciples au moment de les quitter, lorsqu'il leur dit « Allez de toutes les nations, faites des disciples ». Les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ajoutant, pour que cela fasse sens et s'inscrive dans l'histoire, apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné, et ajoutant cette promesse, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Oui, il en a fallu un peu du chemin, quelques expériences, passer par le crible de votre esprit critique, ce que vous découvriez, ce qui pouvait être compris comme un appel, une transcendance qui vous rejoignait. Et puis, en arrivant jusqu'à l'oratoire, vous vous êtes là aussi confronté à cette initiation à la théologie pour vérifier en quelque sorte que ce que vous discerniez en vous avait quelque sens et méritait de s'exprimer d'une manière liturgique, comme c'est le cas aujourd'hui, maintenant. Et je vous donne peut-être la parole pour nous dire quelques mots sur ce premier élément de votre cheminement.
Depuis mon enfance, je me sens à la fois reconnaissant, mais aussi terrassé par toute la beauté qui m'a été donnée de voir.
Alors, c'est bien de protester, de refuser de mettre le micro, mais il faut quand même que vous soyez entendu.
Mille fois, j'ai pensé que je pouvais mourir sans regret. Tant j'ai eu d'occasions de bonheur et d'admiration pour l'œuvre du Créateur. Alors j'ai cherché à savoir, cherché comment je pouvais lui être digne, comment le trouver, comment le rencontrer. Profondément humilié par tant de splendeur, sans jamais être capable d'en reproduire un iota, j'ai senti que je ne pouvais rien par moi-même. Alors une nuit, tous les efforts orgueilleux que j'avais faits pour percer les secrets de la création, toutes mes croyances, en somme, se sont brisées, comme une tour de verre en éclats. Et il ne reste à rien, sauf ma misère de créature, mixte, indécise et faible. Alors un baume est venu me réchauffer le cœur. Comme dans l'Évangile, une voix silencieuse m'a dit « Suis-moi ». Moi, qui alors accumulais les erreurs, voilà qu'une voix me donnait une seconde chance, un pardon fondamental, en quelque sorte, une autorisation d'être à nouveau, mais avec une exigence de bien.
Alors, pour traduire cet appel en acte, que demandez-vous, Nicolas ?
Je demande le baptême.
Alors, rapprochons-nous de ce baptistère. Nicolas, je vous baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Pour vous aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il lui a donné son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui et la vie éternelle. Nicolas, après ce baptême, voulez-vous confesser la foi chrétienne ?
Oui, Jésus-Christ est le Seigneur.
Alors, frères et sœurs, je vous invite à vous lever pour que nous nous associons symboliquement à cette profession de foi de Nicolas qui sera aujourd'hui notre confession de foi.
Si la parole divine s'incarne dans notre humanité, c'est qu'il nous est désormais possible de manifester cette divinité justement par ce qui est propre à notre humanité. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est un Dieu qui s'adresse personnellement à nous. Le Dieu de Moïse est un Dieu qui se révèle une conscience éthique, inaliénable, que nul régime ou idéologie ne peut soumettre. Le Dieu de Salomon est un Dieu de sagesse. Le Dieu de Jésus est un Dieu qui nous propose une filiation, nous envoyant comme les branches d'un arbre manifester sa protection et son amour pour l'humanité et toute la création qui vit sur la terre. Ce Dieu est un seul Dieu et le seul, et se révèle à tous différemment. Si je reçois Jésus comme Seigneur, c'est avant tout parce qu'il me donne la liberté. La liberté de ne pas céder au monde, à sa violence, à la servitude qu'il impose à l'homme. Sa résurrection est le signe que la mort n'a pas de prise sur ce qui est proprement humain en moi. Face à cette peur qui autorise toutes les lâchetés à l'égard des autres êtres humains, j'ai un guide, une aide pour être fidèle au courage, fidèle à ce qu'il y a de plus noble dans l'homme. Il faut du courage pour rester vulnérable et ouvert à l'amour. Lorsque les déterministes nous assaillent, qu'ils soient naturels, sociaux ou politiques, je peux rester droit, debout ou me relever. À chaque fois que l'on pense, parle ou agit avec foi, des résultats émergent miraculeusement. Miracles qui, par nature, sont impossibles avec les yeux du plausible, du crédible, du monde statistique calculable, le monde d'hier, puisque tout ce que je vois est déjà mort. Les miracles sont visibles seulement pour les yeux qui voient par-delà le déjà-là. Je comprends les béatitudes comme un programme à accomplir pour le royaume qui vient. Non pas une utopie, mais un effort pour attirer à nous la possibilité d'un monde sans forme préconçue, qui offre à chacun une place pour exprimer son insaisissable singularité humaine, un monde sans chaîne, ni aller ni à son, un monde pour les hommes et les femmes, et non contre eux. Je découvre par les béatitudes que Dieu est tendresse, pardon et amour. Un homme touché par la foi n'est jamais seul. Cette absence de solitude, cette garantie que l'on est déjà aimé, nous rend capable justement de ne pas vouloir rendre l'amour captif pour le petit soi craintif en manque d'affection. Dieu nous permet d'aimer sans retour. Amen.
Gloire à Dieu dans les cieux et sur la terre et d'éternité en éternité. Amen. Nicolas, vous avez reçu le baptême, le signe de cette grâce qui est venue rejoindre des accents très calvinistes à un moment donné, hein, sur cette espèce de pécheur misérabiliste que vous vous seriez découvert à un moment donné. Voilà, le baptême dit que Dieu relève votre visage, restaure votre personne. C'est un signe d'amour inconditionnel, indéfectible pour nous dire aussi. Vous avez confirmé cette foi par l'expression de cette confiance que vous avez dite, à laquelle nous nous sommes associés. Nous vous recevons comme membre de cette Église, qui est l'un des visages de l'Église universelle, cette Église invisible qui dépasse largement toutes les frontières que les hommes s'évertuent à poser et qui sont néanmoins nécessaires pour savoir qui nous sommes et où nous rendre. Vous avez votre place à la table du Seigneur et surtout au travail de son Église. Alors c'est un large avenir qui s'ouvre devant nous et je vous laisse le soin de nous dire de quelle manière vous intuitionner cet avenir qui s'ouvre.
C'est avec un sentiment de reconnaissance que je me suis tourné vers le Christ, qui m'adopte avec les siens tel une greffe à sa vigne, afin que, je le souhaite, des fruits nobles soient produits de cette semence qu'il a plantée en moi. Non pas pour mon propre salut, mais pour celui de toute la création, ce chef-d'œuvre qui attend notre participation, volontaire, aimante et libre. Il nous a aimés le premier. Il est temps pour moi d'agir, non par devoir, mais par gratitude et dévotion pour celui qui a donné sa vie. Aussi, je m'engage à partager corporellement et spirituellement l'enseignement du Maître, afin qu'il fasse de moi un être pour les autres. À chaque fois que j'agis dans le sens de ce que je comprends du dit royaume, que ce soit parler avec vérité, donner, recevoir, accueillir, pardonner, pacifier, aimer ou aider pour rendre libre, je perçois des bribes de paradis, malgré les apparences parfois déprimantes ou macabres de notre monde éphémère. Un temps apparaît, un temps où il est possible de s'émerveiller d'une étincelle dans un regard, des couleurs que la lumière donne à une scène, ou plus profondément encore, de cet instant unique saturé de sens et d'émotion qui s'est présenté comme une goutte d'éternité.
Chers amis, unissons-nous dans la prière. Éternel, notre Dieu, merci pour ce que tu nous donnes jour après jour et en particulier pour ton esprit qui habite en notre cœur, nous rassurant et nous fortifiant. Merci pour ta parole qui nous guide vers les autres. Nous te remercions pour ce frère que ton amour nous permet d'accueillir aujourd'hui. Grande est notre joie pour ce moment de foi, ce moment de confiance en toi, en la vie. Alors fortifie tout particulièrement la foi de Nicolas. Et aide-nous jour après jour, dimanche après dimanche, année après année, à nous approcher sans cesse plus de toi, à être plus confiant dans ta parole, à être plus au service des autres. Que ta joie, ô notre Père, soit notre force. Amen. Merci. Ouvrons maintenant la Bible au livre des Actes des Apôtres. Ce n'est pas trahir une confidence que vous dire que Nicolas a quelques réserves sur les risques de mysticisme, au sens où l'expérience mystique a tendance à nous avaler très rapidement, et donc j'ai voulu retenir un texte extrêmement pratique pour que nous ne nous enfuyons pas dans une évanescence. Donc, dans le livre des Actes des Apôtres, j'ai retenu ce moment où Pierre, que certains considèrent comme le premier des papes, va à la rencontre d'un centenier, c'est-à-dire d'un chef militaire, de la cohorte dite italique ou italienne. Et donc, au chapitre 10 du livre des Actes des Apôtres, je vous lirai tout d'abord le verset 28, après quoi je vous lirai les versets 34 à 48, ce qui correspond au propos que Pierre tient à cet homme qui s'appelle Corneille. Vous savez, dit Pierre, qu'il est défendu à un juif de se lier avec un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Donc un peu plus loin, à partir du verset 34, Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception de personne. » Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. Il a envoyé la parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le troisième jour et il a permis qu'il apparaisse. Non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous, qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, « Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous ?» Et il ordonna qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur, sur quoi ils le prièrent de rester quelques jours auprès d'eux. Avant de nous plonger plus en avant dans ce texte, ouvrons notre recueil de chants, louanges et prières au cantique 415. Nous chanterons les strophes 1, 2 et 3 qui expriment le souhait d'une existence authentique auprès de Dieu, dans des métaphores un peu bucoliques. L'Éternel, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Alors que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie, et que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Chers frères et sœurs, l'auteur des Actes des Apôtres, en ce passage, nous donne l'occasion, du moins est-ce mon hypothèse, de constater que le dialogue interreligieux d'une part et le refus de la corruption d'autre part sont les deux faces d'une même médaille. Je pense que cela ne vous aura pas échappé à la lecture de ce texte. Nous pourrions être tentés de penser que le dialogue interreligieux, voilà une question vraiment spirituelle, théologique, qui concerne notre établissement, mais que la question de la corruption est plus spécifiquement politique et qu'elle nous intéresse moins. Eh bien, il me semble juste de considérer, à la lumière de ce texte, que l'une et l'autre sont des expressions voisines d'un même point de départ théologique. Et ce point de départ, nous le trouvons au verset 34, que je vous retraduis à ma manière. Ce sont les premiers mots que Pierre adresse à Corneille une fois qu'il est rentré chez lui. Il s'adresse également aux autres personnes de sa maison, et il leur dit ceci: « Dieu n'est pas un preneur d'otages ». C'était traduit ici par « Dieu ne fait acception de personne ». Alors en grec, c'est un peu compliqué à traduire. La phrase, c'est en forme de « Dieu n'est pas quelque chose », et ce quelque chose, c'est « prosolemtes ». Je ne vais pas vous faire un grand cours de sémantique, d'autant que je ne suis pas très bon en la matière, mais on a « prosopon », qui est le fameux visage, le masque grec, qui donne « personne », et puis « lambano », qui est le fait de prendre. Et donc, c'est « prendre quelqu'un ». Donc, vous voyez, preneur d'otage, ce n'est pas extravagant comme traduction. Ne faire acception de personne, on pourrait dire, comme la King James, Dieu n'est pas un accepteur de personne. L'accepteur, c'est celui qui prend une charge sur une personne. Et donc, quelle est l'idée derrière ce verset? C'est que Dieu est impartial. C'est que Dieu ne fait pas de favoritisme. Et parfois, c'est même traduit comme cela, notamment par la traduction œcuménique de la Bible. Dieu ne fait pas de favoritisme. Et voilà qui m'intéresse. Parce que cette affirmation a deux conséquences que nous allons maintenant explorer, celle du dialogue interreligieux et celle de la corruption. Donc, la première conséquence du fait que Dieu n'est pas un preneur d'otages, et je maintiens ma traduction, est dite par l'apôtre Pierre un peu plus haut d'ailleurs dans le récit des actes que je vous ai fait. Vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger ou d'entrer chez lui. Mais Dieu m'a montré, Pierre fait preuve d'une révélation particulière, Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il est souillé ou impur. Et puis un peu plus loin, au verset 35, cela est confirmé par la citation suivante. En toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice lui est agréable. Le peuple de Dieu n'est donc pas limité à une catégorie particulière. À l'époque des premiers apôtres, les Juifs n'avaient pas le monopole de Dieu. Aujourd'hui, ni eux, ni les chrétiens, ni les musulmans, ni les religions védiques, ni qui que ce soit ne peut s'arroger un droit particulier sur Dieu, et Dieu, en retour, n'est pas plus présent chez les uns que chez les autres. Il n'est même pas plus présent chez les croyants que chez les non-croyants. Ici, les païens font figure de personnes qu'on qualifierait aujourd'hui d'athées. Et c'est en ce sens que nous pouvons comprendre la mention de cette souillure ou cette impureté. Sont purs ceux qui sont agréés par Dieu. Et donc ceux que l'on estime loin de Dieu, on les considère comme impurs. Du coup, en affirmant que nul ne peut être tenu pour souillé ou pour impur, Pierre, dont certains considèrent qu'il est le premier des chefs de l'Église de Rome, dit que nul ne peut être considéré comme éloigné de Dieu. Nous sommes tous à équidistance de Dieu. Dieu est présent pour tous, auprès de tous, sans distinction, sans exclusive. Et c'est là que nous pouvons constater que l'histoire connaît des cycles intéressants sur le plan historique, sur le plan humain un peu moins peut-être. Parce que contrairement à l'époque de l'Inquisition où il était possible de dire « Tuez-les tous, Dieu reconnaîtra les siens », sous-entendu « Il y a les bons et les mauvais », eh bien ici, Pierre est en mesure de dire, et c'est corroboré par la fin de la péricope du passage biblique, « Baptisez-les tous, Dieu a reconnu les siens ». C'est quand même singulièrement différent. Dieu ne prend personne en otage en faisant son témoin unique. Dieu ne prend personne en otage en l'empêchant de bénéficier de sa présence. Dieu n'est pas un sélectionneur qui choisit quelques membres de l'humanité et laisse les autres sur le bord du terrain. Et s'il convient de parler de peuple élu, il convient aussi de distinguer élection de sélection. Bref, aussi étonnant que cela puisse paraître, l'apôtre Pierre, ouvre la voie du dialogue interreligieux, puisque Dieu n'est pas confiné à une tradition spécifique ou dans une approche particulière. Il y a une expérience universelle de Dieu qui autorise, et pour ma part je dirais qui rend nécessaire, la rencontre avec celles et ceux qui ne partagent pas notre tradition religieuse. Celles et ceux qui ont une autre manière de nommer Dieu, peut-être même de ne pas le nommer, de s'intéresser à lui, d'en parler, de rendre compte de l'espérance qu'il place en nous. Autrement dit, il n'y a pas de mauvais interlocuteur. Il n'y a pas de personne qui serait indigne d'une bonne discussion théologique, étant entendu qu'une bonne discussion théologique peut se faire sans le vocabulaire spécifiquement chrétien. Je ne suis pas sûr que Dieu parle le chrétien couramment. En tous les cas, ce dont je suis sûr à la suite de l'apôtre Pierre, c'est que Dieu n'a pas de religion particulière. Et à mon sens, Dieu ne s'intéresse pas d'ailleurs vraiment aux religions humaines. Dieu s'intéresse aux hommes, aux individus, et il ne s'arrête pas aux étiquettes qu'il se pose sur le front, voire dans le cœur. Dieu se moque bien de savoir si les réunions cultuelles ont lieu le vendredi, le samedi, le dimanche, de l'aube à l'aube, une partie de la matinée. Peu lui importe la forme du lieu, peu lui importe le nom qui est donné à l'office, etc., etc. Dieu vient à la rencontre de l'homme, il vient à la rencontre de l'individu, il vient à la rencontre de chacun d'entre vous, qui que vous soyez, quel que soit le chemin qui vous a conduit jusque-là. Et après tout, si vous n'arrivez pas jusque-là, cela ne l'empêche pas d'aller à votre rencontre. Et cela sans faire exception de quoi que ce soit de votre identité et de la mienne en passant. En ce sens, on peut parler de grâce. Le mouvement de Dieu vers l'homme est bien un mouvement de grâce qui ne fait exception de personne. Et c'est une grâce qui est bien loin de la grâce à caractère juridique. La grâce de Dieu, c'est de relever le visage de l'homme pour qu'il puisse faire face à son histoire, pour qu'il voie l'horizon qui se dresse devant lui. C'est ce que nous redisions tout à l'heure à l'occasion de votre baptême, Nicolas. La grâce à caractère juridique, c'est moins gracieux que cela. Il s'agit de relever le visage de l'esclave qui n'avait pas le droit de regarder son maître jusque-là et de l'affranchir en en faisant un égal. Il y avait aussi cet usage de relever le visage du gladiateur qui n'avait pas le droit de regarder l'empereur et d'en faire ainsi un homme libre. À chaque fois, c'était le fait du prince. Choisir un visage à relever, c'était en fait exercer son pouvoir sur les individus en s'arrogeant le droit, le pouvoir de le rendre libre ou de le maintenir captif. Vous avez peut-être le souvenir, si vous avez vu le film La liste de Schindler, de cet entretien entre Schindler et le capitaine qui dirige le camp de concentration. Où est le vrai pouvoir ? Pour l'un, c'était le pouvoir d'anéantir. Et Schindler, par un petit stratagème, lui fait comprendre que le vrai pouvoir, celui des empereurs, c'était de sauver la vie, de gracier. Et on le voit dans la scène suivante, avec un captif dans la ligne de mire, et finalement, il ne tire pas. Et on se rend compte qu'il y a quelque chose qui se passe dans son esprit en disant « je suis en train de me faire avoir ». Eh bien ça, ce n'est pas la grâce absolue, c'est le fait du prince, c'est un pouvoir, c'est le fait de pouvoir prendre les gens en otage. C'est comme le videur qui dit « toi tu rentres, toi tu ne rentres pas ». Ce n'est pas la grâce. Et donc, c'est là que nous voyons que ce sujet théologique a aussi une résonance à caractère politique et que cela peut nous conduire sur le thème du favoritisme, voire le thème de la corruption. En ne faisant pas exception des personnes, en rejetant tout favoritisme, Dieu devient une figure de l'incorruptibilité. Une figure qu'il était déjà. Dans le livre du Deutéronome, au chapitre 17, vous pourrez lire que Dieu, tout en étant le roi des rois, le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, est aussi celui qui ne fait pas exception des personnes et qui ne prend pas de cadeaux. Autrement dit, qui n'accepte pas les pots de vin. Dieu ne prend personne en otage. Il n'accepte pas quelques situations où l'un ou l'autre serait privé de sa liberté. Chacun reste libre de ses agissements, de ses renoncements, de ses engagements, de ses compromissions, de ses exactions, de ses réactions. Que Dieu ne fasse pas de favoritisme a pour conséquence qu'il n'y a aucun impératif absolu pour que nous nous en fassions. On pourrait dire que c'est là un modèle de transitivité. Si Dieu est incorruptible, il serait bon que nous le soyons un peu aussi. Et comme on ne peut pas être un peu incorruptible, qu'on peut l'être totalement ou pas, il conviendrait que nous soyons parfaits comme notre Père céleste est parfait. Si nous accordons des passe-droits, si nous privilégions la candidature des petits camarades, si nous favorisons les projets des copains, soyons bien conscients que c'est avant tout pour notre intérêt personnel. A fortiori, quand l'argent est en jeu, c'est pour notre enrichissement personnel. Mais le narcissisme peut être un formidable levier, largement suffisant pour expliquer les phénomènes de corruption. Pour prouver qu'on a de l'importance à quelqu'un, on va lui montrer qu'on peut couper les fils. On peut lui montrer que on a le pouvoir d'accorder certains privilèges, qu'on peut trouver un poste à un tel en court-circuitant les procédures de recrutement. On va pouvoir accorder un tarif préférentiel. On va surclasser. On va réduire les délais d'attente. On va diplômer à l'aveugle, etc. Le favoritisme relève de la corruption. Lorsqu'on n'agit plus selon le droit, mais selon ce qui est juste seulement pour quelques-uns, pour soi, eh bien, nous sommes corrompus. Nous ne sommes plus fidèles à ce Dieu dont il est dit qu'il inspire à Jésus une manière d'être telle que toutes les personnes qu'il rencontre, il les guérit. Qu'il les guérit de ce qui est nommé la domination du diable, autrement dit, de ses tiraillements, de ses conflits d'intérêts. Jésus ne guérissait pas seulement ce qui lui était agréable, Jésus ne guérissait pas seulement les disciples, il ne guérissait pas seulement les familles des disciples, Jésus guérissait même ceux que les disciples ne voulaient pas passer, ne voulaient pas laisser passer. Jésus ne guérissait pas ceux qui lui mettaient une petite pièce de plus dans la main. Jésus a clairement compris que sa vocation consistait à prendre soin de l'ensemble des personnes qui lui étaient confiées, sans favoritisme sur quelques critères que ce soit. De ce point de vue-là, le baptême dit juste, le baptême ne souffre pas de critères qui seraient par exemple des critères machistes. Hommes et femmes peuvent être baptisés. Petits et grands peuvent être baptisés. Croyants de la première heure, croyants de la onzième heure peuvent être baptisés. Parce que Dieu ne fait pas exception des personnes. Alors soyons clairs. Ces pratiques antidivines qui relèvent de la corruption n'épargnent pas les milieux religieux ou les milieux formés d'une majorité de croyants. Nous pourrions penser être mieux équipés que les autres. Nous sommes mieux équipés que les autres aussi sur l'autre plan, à savoir que la fascination de l'argent et la sensibilité à Narcisse est aussi bien exacerbée. Ces pratiques sont bien attestées en christianisme et elles montrent qu'il peut y avoir de parfaits hypocrites qui manient avec autant d'aisance les codes religieux afin de passer pour des personnes pieuses, et les méthodes de la corruption pour obtenir ce qu'ils veulent. Alors, quels sont les effets collatéraux de la corruption ? La corruption, ce n'est pas simplement le problème d'un enrichissement personnel illégal. Le problème, c'est d'abord que ça fait souffrir des personnes qui subissent l'injustice et qui sont lésées par ces pratiques. Il arrive aussi que la corruption tue. Et ceci n'est pas une métaphore. Ces effets pourraient être suffisants pour nous dissuader d'y participer, de mettre la main dans le pot. Mais considérons aussi que les pratiques liées à la corruption, que ce soit pour de l'argent ou pour flatter l'ego, s'inscrivent à contre-courant de l'expérience de l'apôtre Pierre qui mesure l'égale dignité dont bénéficient tous les humains au regard de Dieu. Nous pourrions ajouter sur un plan pratique et dans l'intérêt général que les pratiques liées à la corruption sont toujours mauvaises. C'est-à-dire que si l'argument théologique qui consiste à dire que nous sommes tous d'une égale dignité et que léser quelqu'un, c'est léser l'ensemble, ne vous convainc pas. Si vous n'êtes pas particulièrement sensible à la souffrance de la victime, eh bien au moins faites preuve d'utilitarisme comme Bentham et rendez-vous compte que les pratiques de corruption sont mauvaises. Parce que si vous faites passer un dossier pour de l'argent, ça veut dire que le dossier n'est pas très bon quand même. Si vous faites le recrutement de quelqu'un par amitié, ça veut dire que cette personne n'aurait pas été recrutée pour ses talents propres. C'est-à-dire que vous aboutissez à des décisions qui ne sont pas fabuleuses. Autrement dit, la corruption pratiquée par des êtres dépourvus de morale contribue très largement à la dérégulation de l'activité humaine et contribue très largement à des pratiques sauvages qu'il faut enrayer pour préserver les plus faibles, ceux qui ont le moins de chances de s'en sortir dans un monde où l'homme cesse d'être le Messie, celui qui reçoit l'onction du Saint-Esprit, et où l'homme cesse donc d'être un Christ pour les autres, mais devient de plus en plus un loup. Mais en fait, on peut aussi considérer qu'il convient d'enrayer ces principes de corruption, tout simplement pour que le monde soit plus profitable. J'ajoute à cela que la corruption est un jeu où chacun se tient, un peu comme ce jeu où nous nous tenons par la barbichette. Les degrés de liberté se réduisent peu à peu, chacun étant tenu par les pratiques douteuses, illégales, non morales, mortifères, assassines. C'est le principe du système mafieux. Une fois que je t'ai fait commettre un crime et que j'en suis témoin, je te tiens. Et là, le cercle vicieux s'enclenche inexorablement. Autrement dit, le principe de la corruption, c'est de ligoter chacun dans une attitude qui, de bout en bout, conduira à une situation épouvantable. C'est le principe même de la dérégulation du marché que craignait Adam Smith si le marché n'est pas composé de personnes qui sont des êtres moraux. Et là, la main invisible, elle est en vacances quand il n'y a plus les êtres moraux. C'est comme une église, c'est comme une institution religieuse. Dieu est là à condition qu'il y ait des êtres moraux pour figurer Dieu. Alors est-il possible de résister à la corruption ? Est-il possible de résister à la pieuvre ? Le pape François s'en sortira-t-il contre les mécanismes auxquels il doit faire face actuellement ? Eh bien en fait, c'est précisément ce dont Dieu nous rend capables. Ou pour le dire dans des termes moins déistes, si notre foi s'attache à cette compréhension d'un monde libéré de ce système de valeurs qui doit tout à l'argent, qui doit tout à Narcisse, si nous nous libérons de ce système de valeurs qui consiste à mesurer notre bonheur en nous comparant aux voisins, et qui consiste à dire « je suis heureux parce que mon voisin est plus malheureux que moi », ou que nous comparons notre niveau de réalisation par rapport à ce que les autres possèdent à côté, eh bien oui, nous pouvons ne pas profiter d'un système corrompu sans en devenir malade. Ce n'est pas parce que je ne profiterai pas moi aussi de ces réductions abusives sur je ne sais quel produit ou quoi que ce soit, que je ne participerai pas à cette magouille qui consiste à voir les avantages de ceci ou de cela, que j'en serai moins heureux. Nous pouvons ne pas entrer dans une telle combine sans pour autant passer à côté de notre vie. Bien au contraire. Ne pas profiter des dessous de table, des pots de vin, des petits arrangements, des flatteries, des cadeaux, de tout ce qui fera gonfler le portefeuille ou les chevilles, qu'importe. Est-ce là que se joue notre existence ? Est-ce que c'est dans les trésors qui peuvent être désingués par le verre et par la rouille que nous devons placer notre cœur ? Ou notre trésor est-il un peu plus haut vers le ciel, au sens de au-delà, au-delà du prêt à consommer ? Il y a une chose qui nous revient. Il nous revient à nous en propre ici, communauté particulière. Nous qui, à notre manière, selon nos domaines respectifs, avons des responsabilités. On ne va pas faire de misérabilisme. Nous avons ici des responsabilités, des situations qui nous permettent d'enrayer des situations de corruption. Il y a des endroits où nous avons des leviers. Il y a des endroits où nous avons des marges de manœuvre, nous, personnellement, individuellement, pour enrayer ces mécanismes de corruption. Et c'est là une vocation qui nous est propre, parce que personne d'autre ne pourra le faire à notre place. Seuls ceux qui sont décisionnaires peuvent agir directement sur les situations problématiques. Les autres se font inexorablement laminer lorsqu'ils veulent s'opposer à ces mécanismes-là. Un étudiant qui ne peut pas payer de bakchich pour son diplôme ou qui ne veut pas parce qu'il considère à juste titre que c'est sur les compétences universitaires qu'on doit être évolué et pas sur le capital financier de ses parents, cet étudiant face à un système bien en place n'a aucune chance de changer quoi que ce soit. Le changement ne peut se faire que de l'intérieur. Un professeur isolé n'a pas forcément beaucoup plus de chance. Mais pour l'empêcher, ce professeur, à mener à bien ce combat contre la corruption, alors il faudra que le système se dévoile. Il faudra que le système avance à découvert. Il faudra que le système déploie d'autant plus de moyens et cela sera d'autant plus visible et donc susceptible d'être plus facilement disqualifié. Nous le savons, cela ne va pas sans risque. Mais peut-on laisser faire à l'infini ces systèmes mafieux de corruption? Eh bien, il en est de même pour toutes les situations, qu'il s'agisse des petites combines ou des grosses rétrocommissions, qu'il y ait un aspect financier ou qu'une autre valeur soit en jeu. Notre foi, à vrai dire, peut difficilement transiger avec cela. Notre foi, c'est cet attachement viscéral et inconditionnel à ce mode d'existence qui consiste à ne faire acception de personne, à ne prendre personne en otage, mais à pratiquer la justice, cette justice telle que nous la comprenons à la lumière de l'Évangile. Et cela, nous le cultivons, nous, protestants, libéraux, par exemple, nous le cultivons par des dialogues qui transcendent les frontières confessionnelles, religieuses, culturelles. Nous le cultivons par des dialogues qui atteste que nul n'est impur, que nul n'est impropre à la discussion, que nul n'est infâme. Ce qui nous empêche un peu, ce qui nous retient un peu de pratiquer l'injustice à l'égard de celui que l'on considère comme un frère, du coup. Eh bien, ces dialogues permettent de rompre les affinités qui existent entre une vision étriquée de la parenté de Dieu, l'autre nom de l'humanité, et les pratiques corrompues qui accordent toujours plus aux semblables et qui retirent toujours plus à ceux que nous considérons comme différents ou étrangers, dit le texte. Le dialogue interreligieux et tous les dialogues hors de notre cénacle, c'est la raison pour laquelle nous sommes friands de dialogues, ou que nous devrions l'être, eh bien tous ces dialogues contribuent à ne pas laisser notre humanité se corrompre. Amen. Après ce duo qui nous a été offert par notre organiste Jean-Dominique Pasquet et Constance Luzzati à la harpe, je vous propose de prendre notre recueil de chants louanges et prières pour y trouver le Te Deum du numéro 70. Nous y chanterons les strophes 1, 2 et 5 du cantique 70. Prenons place. Je vais demander à notre sacristain de bien vouloir préparer le micro pour nos amis de l'association Gédéon qui sont venus. Je vous donne quelques informations sur notre déroulement de la semaine. J'oublie pour l'instant notre dimanche, je vous en reparlerai à la fin. Demain, lundi à 19h30, c'est le groupe de grecs débutants qui se réunira à 19h30. À 20h, approfondissement théologique, salle mono au sujet d'Oscar Coleman. Mardi à 14h30, l'étude biblique consacrée à Ézéchiel s'intéressera aux chapitres 29 et 30. Jeudi à 19h30, le chœur élargi à vous tous qui souhaiteriez chanter avec le chœur dimanche prochain se retrouvera ici même, 19h30. Ça peut être aussi l'occasion de découvrir le chœur de l'oratoire et d'y tester votre vocation à y être choriste. Il y a de l'élection, mais il y a aussi de la sélection, par contre, au chœur. Samedi à 10h, groupe d'hébreu, et dimanche prochain, c'est notre journée catéchétique, donc pour tous les enfants depuis la moyenne section de maternelle jusqu'à beaucoup plus. Et rendez-vous ici même à 10h30, sauf pour les plus jeunes qui se retrouvent en face. Les plus jeunes, c'est-à-dire ceux qui sont en moyenne section de maternelle jusqu'à classe préparatoire, cours préparatoire. Et le culte sera présidé par Marc. Voilà, je vous laisse maintenant la parole pour quelques mots d'information sur l'association des Gédéons.
Frères et sœurs bien-aimés, nuit et jour, tout autour de la terre, tout du long de l'année, le Seigneur est à l'œuvre pour attirer à lui des gens et changer leur vie. Il le fait de bien des manières, et parmi ces manières, il y a la distribution massive de la Bible, et c'est ça dont je veux vous parler. Le zèle du Seigneur est tel qu'il donne par la main, rien que par la main des Gédéons, il y a beaucoup d'autres gens qui le font aussi, plus de 160 exemplaires de sa parole par minute. Vous imaginez ce que ça représente pour des collégiens, des lycéens, des étudiants à l'université, dans des chambres d'hôtel, etc. Alors, si vous voulez, nous pensons que la décision la plus importante que tout être humain ait à faire, c'est de dire oui ou non à Jésus-Christ. Mais nous ne voulons endoctriner personne. Nous donnons la Bible et nous laissons chacun la lire et décider par lui-même, loin de toute pression extérieure. Alors la question qu'on peut se poser, c'est, bon, ben alors quel fruit est-ce que ça porte? Et voici ce que nous dit le Seigneur dans Marc 4, 26. Il en est du royaume de Dieu comme quand un homme jette de la semence en terre. Qu'il dorme ou qu'il veille, nuit et jour, la semence germe et croît, sans qu'il sache comment. La terre produit d'elle-même d'abord l'herbe, puis l'épi, puis le grain tout formé dans l'épi. Et dès que le fruit est mûr, on y met la faucille. Alors, nous, nous semons, mais c'est le Seigneur et lui seul qui fait germer et croître, et qui multiplie, sans notre intervention. Et c'est ça ce qui est magnifique, parce que si nous intervenions, eh bien, il y aurait beaucoup d'échecs. Mais comme c'est le Seigneur qui le fait, lui, il n'échoue jamais. Alors, bien sûr, c'est très difficile de croire quand on va devant un établissement scolaire, qu'on donne quelques centaines d'écritures, que chacune de ces écritures, ou presque, va porter du fruit. Et il est très difficile aussi de croire que c'est pas un grain pour un grain, mais que c'est tout un épi pour un grain. Et je dois vous avouer que moi-même, j'ai dû beaucoup prier pour y arriver. Mais le Seigneur m'a montré beaucoup de versets bibliques qui disent la même chose, et il m'a montré surtout des témoignages. Et je voudrais vous en donner un. J'ai un très bon ami qui s'appelle Rob Reeve. Il m'a raconté ce qui lui est arrivé quand il était jeune homme à Londres dans son studio. Un dimanche après-midi, sa maman l'appelle et lui dit « Rob, je suis horriblement inquiète. Ton jumeau est en train de devenir fou. Il passe son temps à lire la Bible et à prier. Je crains qu'il soit tombé dans quelque horrible secte. » Rob, lui, il n'est pas impressionné. Il dit « Maman, ben, c'est ni la première ni la dernière de ces frasques. Tu le connais bien. » Je n'aurai aucune difficulté à lui prouver que la Bible n'est qu'une série de contes de fées. Alors tout ça, c'est très bien. Simplement, il n'avait pas de Bible et il se demandait où il pouvait en acheter une parce qu'à l'époque, le dimanche après-midi, eh bien, tout était fermé à Londres. À ce moment-là, il entend un bruit bizarre. Il se retourne et un petit Nouveau Testament comme celui-ci venait de tomber de derrière le radiateur. Alors, effectivement, ce n'est pas croyable. Mais Rob était devant moi. Qu'est-ce que je pouvais dire? C'était ce qui lui était arrivé. Voyez-vous, c'est extraordinaire, parce que personne ne sait comment ce Nouveau Testament est arrivé derrière le radiateur, combien de temps il y a passé, et ce qu'il a fait tomber. Mais ce que nous savons, c'est qu'au moment où le Seigneur a voulu que Rob ait sa parole, le Nouveau Testament est tombé. Rob a commencé à lire, était tellement passionné qu'il n'a pas pu s'arrêter. Aujourd'hui, il est missionnaire en France, à Thumry, dans le Nord. Il a construit une organisation missionnaire qui couvre l'Afrique noire francophone. Alors, combien de vies changées pour un Nouveau Testament qui est tombé à point nommé de derrière le radiateur. Alors voyez-vous, là, il faut reconnaître que un grain 100, un grain 50, un grain 30, mais qu'est-ce que c'est pour toi, Seigneur? Tu es tout puissant. Alors voilà, s'il y a parmi vous des hommes ou des couples qui se sentent appelés à nous rejoindre, qui ont envie de vivre ce que fait le Seigneur quand on distribue sa parole, eh bien, venez me trouver à la sortie à droite dans la petite chapelle. Merci de m'avoir écouté Et merci, cher pasteur, de m'avoir donné la parole.
Les catalogues ICA n'ont qu'à bien se tenir. Je disais que les catalogues IKEA n'avaient qu'à bien se tenir, car ils ont là un adversaire de taille. Après le culte, il y a un repas paroissial, parce que c'est le premier dimanche du mois. C'est un repas un peu spécifique. Je veux dire par là que c'est un menu Cévenol préparé par des Cévenol. Et attention, des Cévenol des plaines et des Cévenol des montagnes. Les deux se sont mis ensemble pour faire ce repas Cévenol. C'est vous dire s'il y a de l'interreligieux. Donc, après le culte, direction le 4 rue de l'Oratoire, deuxième étage. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de pouvoir vous inscrire encore, eh bien, allez-y quand même. Et ça vous permettra de passer un bon moment et de découvrir les plats qui ont été cuisinés avec amour, talent. Et certainement, faudrait-il dire plus pour ne pas contrarier les Cévenols. Bien, c'est maintenant le moment de l'offrande, et bien que ce soit un temps de témoignage pour chacun d'entre nous. Voilà qui vaut bien une prière. Je vous invite à vous lever pour que nous nous associons à ces mots qui rassembleront toutes nos prières, ces mots transmis par les évangiles de génération en génération, ces mots qui constituent le Notre Père. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, le Dieu de l'espérance nous comble de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.